Jusqu'à 9h, la matinale du Move avec Benoît Bouscarel.
C'était False sur le Move Cassius, il est 8h14. On retrouve nos invités dans la matinale, Sébastien Broca et Alexis Kaufmann, pour parler du logiciel libre et de tout ce que la philosophie du libre au sens large va changer, peut changer, devrait changer dans nos sociétés.
Avec le logiciel libre, il y a aussi l'égalité parce que personne n'a de pouvoir sur personne. Et il y a aussi la fraternité parce que nous encourageons la collaboration et coopération entre les utilisateurs pendant que le logiciel privateur interdit la coopération. Et comparé aux droits de l'homme, les questions économiques sont secondaires.
Alors, égalité, coopération, droits de l'homme, on entend bien Richard Stallman, hein, considéré comme un des pères du logiciel libre. Est-ce que c'est un truc de gauchiste, Alexis Kaufmann, on est libriste, on est gauchiste 68ard qui pense qu'à la coopération et à mettre des fleurs tout autour de nous?
Pas forcément. C'est vrai que Stallman a beaucoup de succès en France, parce que d'abord il s'exprime en français et il démarre toujours ses conférences en disant: je peux résumer le logiciel libre en trois mots: liberté, égalité, fraternité.
Ça marche.
Les applaudissements de la foule libriste. Mais non, il échappe aux catégories, j'ai envie de dire, du siècle précédent. Ouais. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont entre guillemets de gauche qui font partie des libristes, mais pas que, n'est-ce pas Sébastien?
Sébastien Broca, Sébastien Broca, je rappelle, vous êtes auteur de L'utopie du logiciel libre, du bricolage informatique à la réinvention sociale.
En fait, oui, ce qui est intéressant, c'est que les libristes ou les hackers eux-mêmes, on trouve vraiment toutes les sensibilités politiques, en fait, et on peut défendre le libre en étant libertarien, en étant de gauche, enfin bref, tout est représenté. Par contre, ce qu'on peut dire, comme c'est qu'en France, ça tombe d'intellectuels vraiment très marqués à gauche, comme André Gors, par exemple, ou Yann Moulier-Boutan ou Bernard Stiegler, récemment, sont très intéressés, très même fascinés parfois par le libre, et eux, ils sont quand même très marqués à gauche.
Parce qu'ils y voient une possibilité de changer la vie.
Oui, je voulais juste rebondir en étant un peu provocateur. Le Front National défend aussi le logiciel libre parce qu'il y a des questions de sécurité, d'autonomie, de souveraineté nationale. On n'est plus dépendant de logiciels propriétaires américains tels Microsoft. On a vu avec le scandale de la NSA cet été ce que ça a pu donner.
C'est-à-dire qu'il y a plein de facettes quand on parle de logiciel libre et du libre en général dans le monde informatique. Est-ce que le libre et l'idéologie que sous-tend ce mouvement libriste va ou peut changer le monde? Ça, c'est la question sur laquelle on va s'arrêter un peu, Alexis Kaufmann. Est-ce que vous y croyez? Changer la société, changer la politique, l'économie.
Est-ce qu'on a envie que la machine domine l'homme ou que l'homme domine la machine? Voilà, c'est un petit peu ça, ou en tout cas contrôle et comprend la machine. Quand je dis la machine domine l'homme, c'est une poignée d'hommes qui contrôle la machine, qui va contrôler la majorité. L'enjeu est un peu là. Il est également dans une espèce, on est dans une crise économique de consommation et d'individualisation, j'ai envie de dire. On a envie de se retrouver, de faire, d'agir et de consommer autrement. Ça, on le sent, et le logiciel libre a des billes à apporter à ce renouveau.
C'est aussi, et vous le signalez d'ailleurs dans votre ouvrage, Sébastien Broca, une façon de s'approprier, de se réapproprier les moyens de production. Vous allez remonter même jusqu'à Marx pour analyser le logiciel libre.
Oui, alors c'est notamment tout un discours qu'on a donc autour de l'impression 3D en ce moment, avec des gens qui disent, par exemple Adrian Boyer, qui a créé une des premières imprimantes 3D autoréplicables, qui s'appelle la RepRap, et lui dit qu'est-ce que c'est que cette chose. C'est un moyen de se réapproprier les moyens de production, mais sans avoir besoin de faire une révolution politique comme dans le marxisme classique. Donc voilà, donc c'est à la fois on se réapproprie les choses sans risquer le bain de sang ou la prise du palais d'hiver, ou comme on connaissait dans les...
Pour donner un exemple concret, je pense qu'un jour, quand on consultera, par exemple, l'article assiette de Wikipédia, on aura toutes sortes d'informations, des images, des vidéos, du texte, mais on aura aussi un lien vers un fichier numérique de conceptualisation en 3D de votre assiette, libre, qui permettra directement de l'imprimer chez soi, avec son imprimante. Ouais. Voilà, de l'avoir. Donc, plus besoin de passer chez Ikea, par exemple.
Ça, c'est de l'utopie, Alexis Kaufmann, Sébastien Broca. Vous parlez d'utopie concrète dans votre livre. Il y a un petit paradoxe dans ce terme-là.
Ça paraît un peu contradictoire, parce que c'est vrai qu'on a cette idée que l'utopie, c'est quelque chose de chimérique, d'irréalisable. Et c'est vrai que moi, j'entends utopie un peu en un autre sens, comme finalement du possible non encore réalisé, quelque chose qui est du non encore devenu. Et donc l'idée que l'utopie concrète, c'est quoi? Donc c'est cette idée que dans le libre, il y a quand même une sorte d'idéal social, éventuellement de modèle de société alternatif, mais aussi que c'est quand même cet idéal, il s'appuie sur des pratiques, et que quand on voit donc tous les logiciels libres qui existent, ou ce qu'a réalisé Wikipédia en seulement 10 ans, ben là on se dit quand même que c'est pas simplement des gens qui délirent ou qui rêvent, mais il y a aussi des pratiques qui soutiennent cette utopie.
Il y a des choses qui se passent, Andréa Fralin.
Mais la question qu'on se pose, c'est finalement dans quelle mesure le libre peut vraiment se réaliser en tant qu'utopie concrète, parce que pour parler que de cet exemple, après les révélations dites Snowden, donc l'espionnage massif de la NSA, moi j'ai été frappée, comme d'autres journalistes et d'autres observateurs, par la réaction des gens majoritaires qui disaient « mais on s'en fout ». Et qui n'avaient pas visiblement une propension à changer leurs usages, qui donc sont sur des plateformes donc propriétaires, verrouillées, qui n'ouvrent pas le capot et qui ne voient même pas le problème finalement.
Les gens ont été clairement endormis, quoi. À nous de les réveiller.
Une servitude volontaire que le libre ne change pas, voilà.
Oui, c'est vrai que par rapport à ces problèmes-là, peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que les formes de surveillance, elles sont finalement très discrètes et peut-être un peu pernicieuses, mais on n'est pas non plus en Allemagne de l'Est où une personne sur 7, paraît-il, était un informateur. Là, quand vous utilisez Facebook, vous avez quand même aucune indice sensible vraiment du fait que vous êtes surveillé.
Oui, mais on le sait maintenant.
Oui, maintenant,
on le sait, comme le dit Andréa.
Oui, c'est impalpable.
Sauf que c'est impalpable et puis que les gens peut-être aussi ont l'impression qu'ils n'ont rien à cacher. C'est le slogan de Google, don't be evil. Si vous n'êtes pas méchant, que vous n'avez pas d'intention malfaisante, finalement, pourquoi est-ce que vous pouvez en avoir à faire d'être surveillé? Donc ça, c'est un peu le discours qu'on entend souvent sur ces questions.
On évoquait tout à l'heure ce que vous écrivez, Sébastien Broca, dans votre ouvrage. Il y a des limites au libre et à l'utopie amenée par le libre et elles se matérialisent, par exemple, ces limites par le fait que le libre est utilisé depuis longtemps, par les gens dont on parle depuis tout à l'heure, Facebook, peut-être même la NSA utilise des logiciels libres, enfin voilà, Google, Microsoft, toutes les grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec l'idéologie du libre, finalement, utilisent aussi ces logiciels-là.
Bien entendu, puisqu'on aboutit à des logiciels de qualité. Le processus même ouvert fait que et d'amélioration continue par la communauté, mais également par des grandes entreprises, fait que ce sont des logiciels qui s'améliorent.
Mais ça, c'est la fin de l'utopie, non, Sébastien Broca?
Oui, enfin peut-être. Ce qui est sûr, c'est que au sein de cette grande mouvance autour du logiciel libre, c'est qu'il y a deux tendances. Peut-être qu'il faut revenir à ça. C'est qu'il y a la tendance historique autour de Richard Stallman, qui s'appelle donc Free Software, logiciel libre. Et il y a un autre mouvement qui est né à la fin des années 90, ce qu'on appelle l'open source. Donc c'est une terminologie qui a connu beaucoup de succès et qui a un discours un peu différent, qui est de dire vraiment les logiciels libres, c'est pas vraiment une question de principe ou de valeur. C'est simplement produire des meilleurs logiciels avec des méthodes de développement innovantes et du coup un discours beaucoup plus
politiquement correct
et propre à séduire les entreprises et voilà. Et Stallman dit que c'est une version édulcorée évidemment de ce que lui promeut depuis 30 ans.
Alors on utilise le libre pour créer en coopération, pour s'affranchir des brevets sur le logiciel et de l'emprise finalement mercantile sur la société. Si on plisse les yeux, et je vais vous citer Sébastien Broca, on voit se dessiner une société soustraite à l'aliénation de l'emploi salarié et à la privatisation des fruits du travail, où la créativité technique serait encouragé par la réappropriation des savoir-faire, une société où les processus de décision ne seraient plus dissimulés et où savoir et culture ne pourraient plus tomber sous la tutelle spéculative d'un petit nombre d'entreprises. Ça, c'est la fin de l'histoire, finalement, Sébastien.
Oui, je vous remercie de citer ce moment un peu lyrique de mon livre qui arrive à la fin. Mais bon, bah, ça c'est si on y croit, si on va à fond dans cette utopie. Moi, je raconte ce que font des gens qui y croient, essentiellement. Mais oui, disons que j'y crois un peu, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà quand même plusieurs réalisations qui montrent que ce mouvement, il produit quand même des choses qui sont bien concrètes.
Ça, ce serait la fin, en fait, la finalité. Mais finalement, peu importe si on y arrive ou pas, dites-vous également, Sébastien Broca, dans ce livre, Utopie du logiciel libre, pourvu qu'on utilise les bons moyens d'y parvenir, finalement. Pourvu qu'on utilise des bons moyens, qu'on y parvienne ou pas, d'ailleurs. Les moyens collaboratifs, l'expérimentation curieuse par l'autonomie, hein, la réappropriation des savoirs, la transmission des savoirs aussi. C'est aussi une méthode, en fait, le livre.
Exactement. Ce que je voulais dire par là, c'est que le livre, c'est aussi, indépendamment des réalisations qui sont produites, c'est aussi une méthode, et par exemple, une méthode pour faire des choses ensemble, pour travailler. Ça, c'est ça, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de projets de logiciels libres. C'est quand même une manière de travailler ensemble, de collaborer sur une base de partage du savoir, et puis aussi avec des rapports hiérarchiques assez faibles, avec cette idée que chacun décide, chaque contributeur, par exemple, un logiciel libre, décide de ce sur quoi il va travailler, et est quand même assez autonome dans la manière dont il organise son travail. Et donc, c'est là, on a quelque chose qui est un petit peu subversif par rapport à cette, forme classique du travail en entreprise avec des hiérarchies.
Une
méthode, mais aussi une démarche et un état d'esprit, c'est-à-dire ne pas sacrifier son confort sur l'autel de nos libertés. Je pense par exemple à Apple qui est très fort pour faire de beaux logiciels qui fonctionnent, design joli, etc. Mais on s'enferme dans une prison dorée avec Apple. C'est un peu ça notre discours. On a effectivement souvent du mal à le faire passer. Mais voilà, c'est être intransigeant sur les libertés.
Merci Alexis Kaufmann, vous êtes le fondateur du réseau Framasoft.
Oui, j'en profite pour dire que nous sommes en campagne de dons, donc si vous pensez que nous le méritons, soutenez-nous.
En campagne de pardon
de en campagne de dons.
Ah oui, voilà.
Oui, parce qu'on ne vit que des dons individuels de nos utilisateurs.
Rappelez-nous l'adresse internet de votre site, framasoft.org. Merci également à Sébastien Broca. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'utopie du logiciel libre, du bricolage informatique à la réinvention sociale, qui est donc possible. C'est une utopie, mais une utopie concrète. Merci Sébastien Broca. Votre essai Utopie du logiciel libre est paru au Passager clandestin. La matinale du Mouv' continue, il est 7h24.